7,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous? Comment est-ce qu'il est cultivé? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé, mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontre avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour Nance.
Bonjour, bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Très heureux de pouvoir partager un petit peu de mon quotidien au sein du sourcing.
Eh ben oui, moi ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un épisode dédié à ce sujet-là. Même pour, en vrai, pour ne rien te cacher, c'est, je pense quand j'ai commencé Papille et commencé à discuter avec des chocolatiers, j'ai appris qu'il y avait en fait des sourceurs aussi qui les aidaient dans tout ça. Et depuis, je me suis dit, c'est vraiment un métier que j'ai envie de découvrir. Et du coup, là, je trouve que le fait de faire une petite série dédiée vraiment au cacao et au chocolat, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment pour en savoir plus sur ce métier que je trouve, enfin, du coup, qui m'intéresse et que je connais très peu.
Bah, j'espère.
Du coup, pour commencer, est-ce que déjà, toi, tu peux te présenter un petit peu et présenter, en fait, toi, ton lien avec le cacao et le chocolat?
Oui, alors, je suis ingénieur agronome, j'ai fait une école qui s'appelle l'ISTOM en 5 ans. Après mon bac, c'est une école qui diplôme, on va dire, des ingénieurs agronomes voués à travailler dans des contextes en développement, en pays tropicaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied un peu, via mes expériences en Équateur, au Pérou, un peu à La Réunion, et puis à Madagascar longuement, entre 2017 et 2020. J'ai passé 3 ans à monter une filière cacao dans la région de la Vanille, dans le Nord-Est, pour un opérateur sur place, qui est aujourd'hui un partenaire historique chez Valrhona. Et voilà, l'idée c'était de créer vraiment une filière cacao dans une région où on va dire la totalité des producteurs produisent de la vanille. Donc j'ai commencé j'avais déjà une expérience en Équateur, hein, en Amazonie, où l'idée c'était de venir diversifier un petit peu les cultures cacaoyères avec des fruits, avec des arbres fruitiers, avec du bois d'œuvre aussi, hein, des arbres d'ombrage, quelques autres cultures. Et là voilà, j'ai vraiment fait le tremplin sur le cacao à Madagascar, où je me suis dédié 100% au montage d'une filière. D'une filière entière, donc de la parcelle, on va dire des plantations, même de la pépinière, hein, la création des plants, okay, jusqu'à l'export de cacao. Et suite à ça, bon, pour des raisons personnelles, j'avais besoin de rentrer en France, et donc du coup j'ai pu travailler sur cet aspect un peu sourcing, donc du coup plutôt côté achat et création de partenariats avec les différentes coopératives partenaires avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça.
Et pourquoi tu as choisi le cacao en particulier? Qu'est-ce qui t'intéressait plus? Enfin, je sais pas, par rapport à d'autres produits, tu vois, qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce produit-là?
Alors, donc le produit en tant que tel, il est très valorisant, très très subtil à travailler. Donc là, je parle de fermentation, je parle de séchage. La plante en tant que telle, elle se comporte assez atypiquement, on va dire. C'est-à-dire que les fruits sont produits sur le tronc et les branches. Donc ça, c'est quand même assez atypique. En tout cas pour nous agronomes et même français issus de milieux tempérés, on a quelques exemples, mais là c'est vraiment voilà une plante qui produit comme ça, qui produit beaucoup, qui produit toutes les semaines, qui donne un revenu aux producteurs réguliers, qui permet derrière donc de monter une filière avec des relations euh, de proximité avec les producteurs qui sont formés sous forme de coopératives, de groupements, etc. Donc il y a vraiment tout un volet autour du cacao aussi qui permet d'avoir un aspect social, accompagnement des producteurs, amélioration des conditions de vie du milieu paysan et du milieu voilà agricole qui est vraiment central. Voilà, tout simplement parce que voilà, il y a une certaine proximité avec les producteurs et rapidement des enjeux autour de la filière, des filières cacao qui sont majeurs. Je pense à l'atteinte d'un revenu vital. Donc voilà, j'ai passé pas mal d'énergie là-dedans durant mon expérience à Madagascar, encore plus maintenant, pour demain garantir que les prix actuels qui sont pratiqués sur le marché cette année, en 2024, ils sont historiques. Et malheureusement, ils ne retombent pas forcément dans la poche du producteur, en tout cas dans tous les pays. Ouais. Mais en grande partie, oui. Et voilà, on atteint des niveaux qui sont au moins égal voire supérieurs à ces fameux revenus décents qui sont prônés depuis plusieurs années. Donc voilà, moi le cacao, ça me passionne pour ça. Ça me passionne parce que ça concerne beaucoup de producteurs en milieu tropical. Ouais. C'est des grosses filières. On fait avec le même produit, on est capable de faire une barre chocolatée bas de gamme, mais aussi un chocolat premium. En tout cas, je parle avec la même plante. Après, le travail et oui. L'énergie qui est mise au niveau de la fermentation et séchage, ça a absolument rien à voir. Mais voilà, c'est pour ça. C'est que c'était vraiment le besoin aussi de travailler dans un contexte à impact. Se dire en fait travailler avec des producteurs sur des filières qui brassent des gros volumes qui impactent beaucoup de gens, mais c'est valorisant. On a l'impression de donner du sens un petit peu à notre activité.
Alors du coup, peut-être pour les gens, enfin pour tu vois, poser aussi un peu le contexte pour les gens qui seraient pas forcément au courant, c'est quoi exactement un sourceur? Enfin tu vois, c'est quoi ton quotidien aussi en tant que sourceur et qu'est-ce que tu fais?
Alors, pas tous les chocolatiers sont équipés entre guillemets d'un service sourcing. Souvent, donc, c'est des services, en tout cas des départements qui achètent, qui ont l'occasion de se rendre des fois sur le terrain, mais pas tout le temps. Et certains chocolatiers ont pris des postures un peu plus fortes de se dire voilà, on va vraiment créer un service sourcing qui va derrière s'occuper vraiment de construire une relation de partenariat long terme forte. Donc ça, c'est un gros volet de mon travail, c'est-à-dire que je suis en lien avec les 8 partenaires dans mon périmètre de responsabilité dans différentes régions du monde. Et là, donc voilà, c'est des voyages où derrière on va planifier un tout simplement un planning d'embarquement. On va créer un planning d'embarquement avec eux pour recevoir le cacao. On va se mettre d'accord sur des volumes, donc on va se mettre d'accord sur des prix. On va se mettre d'accord aussi sur des axes prioritaires de travail au niveau des projets. Donc il y a tout un volet projet aussi, construction à long terme de projets qui sont prioritaires pour les coopératives. Donc ça, c'est un gros volet aussi. Donc là, c'est vraiment de la gestion de projet, financement, activité, chronogramme, etc., respect des activités, livrables, tout ça. Et évidemment, dans la première partie qui est un peu de l'achat pur et dur, ça va être garantir une qualité en lien avec un cahier des charges qu'on a établi ensemble et qui derrière, par exemple, dans le cas d'un cacao malgache, on va aller chercher des notes d'acide et de fruits qui sont assez poussées. On connaît le protocole qui doit être mis en place et donc on va faire en sorte au niveau du sourcing de qu'il soit respecté et que du coup on ait 100% des lots et des échantillons qui sont acceptés ici. Donc ça, c'est vraiment nous au niveau du sourcing qui sommes les garants de cette première étape chez un chocolatier. Voilà. Après évidemment, on a aussi une grosse partie de notre activité qui est sur on va dire les clients, tout l'environnement extérieur, plutôt chocolat du coup. Voilà, on va aussi faire un peu de plaidoyer pour les conditions de vie des producteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Expliquer notre travail, sensibiliser. Le chocolat, c'est pas seulement qu'un gâteau, un dessert ou une tablette. Il y a toute une histoire derrière. Il y a des gens qui ont mis des efforts, de l'énergie. Voilà. Il y a aussi tout ce volet-là qui est assez important. On va être mis un peu au devant de la scène par moment pour expliquer, et témoigner un petit peu de tout ce qu'on voit en pays producteur.
Finalement, t'es l'intermédiaire entre à la fois les chocolatiers et les producteurs qui, du coup, se rencontrent pas forcément ou plus rarement. Et du coup, toi, t'es vraiment là pour à la fois dire en fait, moi, les chocolatiers pour qui je travaille, ils recherchent telle et telle chose, donc là, je peux le retrouver là-dedans. Et les producteurs, de l'autre côté, en fait, eux, ils vivent comme ça, il faudrait, du coup, mieux les rémunérer ou
Ouais.
plein de choses, mais.
Alors exactement, moi je travaille pour un chocolatier qui s'appelle Valrhona, et donc du coup ma mission c'est vraiment d'assurer un approvisionnement en temps, en qualité,
Ouais.
et voilà, puis évidemment mettre en lien en tout cas toute cette partie amont avec l'aval de la filière, donc nos clients, et voilà, les sensibiliser parce qu'on pense vraiment que demain en fait, la filière cacao, c'est une filière qui est longue, où il y a historiquement beaucoup d'intermédiaires. Donc
Ouais.
l'idée dans nos partenariats, c'est de vraiment venir couper au maximum le nombre d'intermédiaires. Donc on fait notre maximum pour ça. Et pour raccourcir les filières, ça veut dire une meilleure répartition de la valeur ajoutée pour le producteur et donc à la production évidemment, et aussi évidemment être beaucoup plus, en tout cas faciliter la transmission des messages entre l'amont et l'aval, et les filières qui sont peu connectées, parce que beaucoup d'intermédiaires, parce que manque de transparence, parce que pour plein de choses, une exposition médiatique moindre, donc moins d'efforts faits là-dessus. Ben, c'est des filières où, voilà, on sait pas trop ce qui se passe, il n'y a pas trop de liens, etc. Et finalement, on a encore plus de mal à mettre en place, on va dire, tous les leviers pour faire en sorte que cette filière soit plus vertueuse. L'idée chez Valrhona aussi, c'est ce qu'on essaie d'impulser, c'est d'arriver à connecter au maximum les coopératives du chocolatier, de nos clients. Donc on organise des voyages clients en petit comité chaque année, où on vient, et des collaborateurs aussi de la chocolaterie, on vient connecter un peu ces mondes-là pour qu'ils se rencontrent, pour qu'il y ait des témoignages qui soient forts, quand on parle d'un producteur de cacao à Madagascar, en fait, finalement, on ne sait pas quelles sont ses conditions de vie. Hein. Voilà, il y a tout un besoin là-dessus de connecter tous les acteurs.
Et c'est une question que j'ai parce que du coup, toi, tu travailles avec Valrhona qui est quand même déjà assez gros, mais du coup, il y a plein. Enfin, j'imagine, tu vois, il y a des sourceurs qui travaillent avec des plus petits chocolatiers. Est-ce que du coup, le métier de sourceur, t'es intégré, tu vois, dans une entreprise ou est-ce que en fait, t'es finalement à ton compte et juste, tu peux avoir plusieurs clients?
Alors non 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 là c'est là donc moi je suis salarié 100% chez Valrhona. Il y a quand même, ça existe hein, je pense hein, tu vois, j'ai pas trop la vision là-dessus, mais ça existe hein, des consultants en fait hein, des consultants
Ouais.
sourcing, mais c'est assez compliqué dans le sens, enfin en tout cas je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on est dédié à 100% à un chocolatier qui met les efforts là-dessus, sur le sourcing, sur connecter au plus près à nos activités avec nos partenaires, bah, ça permet d'avoir vraiment une vision claire et des ambitions claires vers ce sur quoi on veut aller. Et ça permet surtout aussi de faire un gros travail sur tout le volet RSE. Parce que pour moi, le
Ouais.
sourcing, c'est pas seulement aller chercher des cacaos rares. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser, c'est-à-dire cette vision presque un peu archaïque du sourcing, où on doit faire absolument rêver, on doit absolument aller chercher un cacao qui n'existe nulle part ailleurs. Je pense que ça existe évidemment, hein, mais il faut savoir systématiquement le relier à une vraie valeur éthique, parce que voilà, aller chercher un cacao, je sais pas, moi je dis une bêtise, voilà, au fin fond de l'Amazonie, mais on sait que c'est 100% de mineurs qui le récoltent, les droits fonciers sont pas établis, enfin voilà, des conditions de vie un peu misérables, un prix qui est bon mais qui est finalement pas si bon par rapport aux énergies, aux efforts qui sont faits. Voilà, je pense que ça c'est une vraie attention Et c'est au sourcing, au sourceur, finalement, qui est l'acheteur, hein, en tout cas, qui est au premier plan là-dessus, qui doit garantir tout ça et qui doit mettre une énergie forte là-dessus. Parce que même si le consommateur, même si le client, aujourd'hui, l'attend pas ou l'attend peu ou l'attend pas assez, j'en sais rien, on se doit d'avoir ce devoir-là de sourcer des matières premières qui sont les plus vertueuses pour l'homme, pour l'environnement, parce que voilà, on est clairement face à un emballement du changement climatique. On l'a vu pleinement en 2023, ça s'accélère en 2024. Là, par exemple, je dois aller à Madagascar dans 10 jours, et il y a un gros cyclone qui est en train de frapper un peu l'île, avec des vents qui sont violents, peut-être un peu moins violent, en tout cas c'est pas le cyclone le plus fort qui ait connu Madagascar, mais qui fait partie quand même des forts, et il y a des pluies diluviennes, voilà, où il y a 1, 2, 3 mètres d'eau dans certaines zones, des ponts coupés, etc. Donc voilà, il y a tout cet environnement-là aussi où il faut arriver à faire preuve d'humilité, à se dire, quand j'achète une matière première, c'est une partie d'un écosystème, d'un monde que je dois appréhender et qui doit faire sens. Que je dois être capable d'expliquer, de témoigner, et voilà, d'apporter de l'éthique en fait dans nos actions. Je pense qu'aujourd'hui il faut dépasser vraiment le chocolat sourcé à un endroit, un micro terroir, et être entre guillemets un peu à poil sur tout le reste, quoi.
Ouais, c'est ce que tu disais. Mais alors du coup, enfin, qu'est-ce que, donc j'imagine, t'as un genre de petit cahier des charges, de plein de choses à regarder finalement quand tu vas découvrir un nouveau cacao. Ça se passe comment ça? Alors peut-être du coup on reviendra après plus globalement sur ton quotidien, enfin parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais du coup, quand tu vas découvrir du coup un nouveau cacao, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu poses comme question? Enfin voilà, comment ça se passe? Et comment aussi tu les trouves, tu vois, finalement ces nouvelles exploitations?
Alors chez Valrhona, ça fait quand même un paquet d'années que ce sourcing il est en place, et on a donc des origines qu'on appelle en activité, c'est-à-dire des sourcings d'achat, ouais. On achète vraiment, et on a toute une partie du sourcing qui est un sourcing exploratoire. On maintient, on reçoit des échantillons, on maintient une veille assez forte sur plusieurs pays, plusieurs pays producteurs, avec plusieurs partenaires. Donc on arrive à avoir en fait un pool de régulier qu'on met à jour de cacao qui arrive et qui nous intéresse ou qui nous intéresse pas. Voilà, on peut faire parfois des tests, on a des visions un peu sur la partie aromatique. Évidemment, la qualité et l'aspect aromatique, il est un peu central chez nous parce que c'est quelque part une, en tout cas, c'est une des premières portes d'entrée pour arriver à imaginer demain un chocolat, on va dire un chocolat différenciant potentiellement, ou alors un chocolat où on mettra l'accent sur d'autres choses, mais il y a vraiment cet aspect qualité. Et ensuite, tout ce pool, en tout cas de coopératives, de cacao qui arrivent, etc., d'échantillons, on vient, à partir du moment où on a validé une qualité idéale, en tout cas cible ou intéressante, on va vraiment travailler tout cet aspect social, les ambitions de la coopérative, comment sont traités les travailleurs quand on travaille sur des toutes petites plantations, etc., etc. Donc là, il y a vraiment ça maintenant qui rentre en compte. Donc on a au quotidien un sourcing exploratoire. J'ai un sourcing exploratoire, par exemple Costa Rica, Panama, en Asie aussi. Voilà, la Guinée équatoriale aussi. Enfin, il y a vraiment plusieurs pays où on regarde ce qui se passe. Évidemment, et puis dès qu'il y a un besoin, typiquement la Bolivie, l'année dernière j'y suis allé, il y avait un sourcing super avec une coopérative extrêmement engagée et qui répondait bien, en tout cas dont les ambitions collaient bien aux nôtres, qu'on a pu s'accorder rapidement. Et puis après, à partir du moment où on a validé la qualité, validé le projet avec eux de la coopérative et s'inscrire dans le long terme avec eux, on commence à faire des premiers tests d'embarquement de cacao, on les valide, et à partir du moment où on les valide, eh ben on peut s'engager rapidement sur des conventions de partenariat, où là on va pouvoir signer des volumes minimum pour 5, 6, 7, jusqu'à 10 ans
okay.
De partenariat.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que
Tu restes en moyenne combien de temps dans les... Parce que tu vas dans les plantations, mais du coup, tu restes combien de temps en moyenne justement pour valider tout ça? Et est-ce qu'il y a... Est-ce que tu vois quelque chose de l'ordre du... Enfin, tu vois, est-ce qu'au départ, on te dit, bah oui, ça c'est super, etc. Et des fois, en fait, tu vois comme une dissonance par rapport à ce qui a été annoncé et du coup, tu y vas pas ou...
Alors, en général, c'est rare parce qu'on accorde quand même un temps assez important. Enfin, moi, dans la manière de travailler, j'accorde un temps assez important à la réception des échantillons, des analyses, etc., de voir, de commencer à filtrer, parce qu'à partir du moment où on se rend sur place, malgré le fait qu'on répète qu'on ne fait pas de promesses d'achat, etc., il y a des attentes qui sont fortes. Donc, si la qualité, si le projet ne matche pas trop déjà à distance, voilà, et ça va pas le faire. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà un premier tri depuis ici, depuis la France, et ensuite on s'adapte un peu sur place. Voilà, mais il y a rarement des grosses dissonances. Avec le temps et l'expérience, on sait vers quoi on est. C'est un peu plus précis dans notre tête, en tout cas plus abouti. Et on arrive à être beaucoup plus, à se diriger beaucoup plus vers certaines coopératives, certains partenaires plus facilement. Sur le terrain, ça dépend vraiment des origines, mais en général, c'est 1, 2 jusqu'à 3 semaines. Tout dépend de la maturité du partenaire. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines dans le cadre où on a plusieurs sourcings liés au partenaire, on va explorer plusieurs choses, stabiliser et même co-construire des projets avec eux, où on va avoir une petite phase de diagnostic, aller voir un petit peu, donner notre avis sur la suite du projet, etc. Donc ça peut varier entre les origines, et même ça peut varier en termes de temporalité, c'est-à-dire que moi, par exemple, je peux aller en République dominicaine 2 semaines et demie, 1 année, parce qu'il y a vraiment un besoin qui se densifie. Et l'année d'après, y aller uniquement 10 jours ou 1 semaine, parce que voilà, tout a été bien calé pour l'année.
Ok, tu vois, j'avais pas du tout conscience en fait que tu recevais d'abord des échantillons et que finalement en fait tu vas une fois que tu t'es dit ok, ça vaut le coup, je vais sur place. Donc ça, c'est très intéressant.
C'est aussi beaucoup lié donc moi je m'occupe aussi chez Valrhona du pilotage de la côté sourcing de la partie carbone, empreinte environnementale. Et en fait, on est en train de travailler énormément sur l'impact de nos cacaos. Et dans l'impact de nos cacaos, très grossièrement, on calcule ce qu'on appelle un facteur d'émission, c'est-à-dire qu'on sait que un cacao qui provient de Madagascar, quand il arrive chez nous à la chocolaterie, il a émis tant de kilos de CO2. Et ça, on le fait pour tous nos cacaos. Et donc, on est en train d'avancer dans ce sens-là. Il ne nous manque pas beaucoup d'origine. On va finaliser ce travail-là. Et ensuite, on va imaginer un plan de réduction de nos émissions. Et donc, travailler sur un sourcing et sur une activité potentiellement de réduction, d'optimisation de nos mobilités en mission, ben, ça va devenir central. Enfin, ça l'est déjà. Et ça devra l'être encore plus, puisque voilà, on sait très bien qu'il faut limiter notre impact, que les déplacements professionnels comme personnels en avion, ben, il faut les raisonner, et demain peut-être bien les limiter. Donc voilà, il y a toute une optimisation. Par exemple, moi, dans mes déplacements, j'essaye de concentrer au maximum les origines dans lesquelles je me déplace. Si je vais en Amérique latine, voilà, j'essaye de faire Équateur, Bolivie, par exemple, en même temps. En Afrique, Cameroun et Togo en même temps, etc., etc.
Ça, du coup, sur qu'est-ce que vous faites rentrer en compte dans ce calcul d'émissions carbone?
Alors en fait, on calcule toutes les émissions qui ont été, en tout cas tout le CO2 qui a été émis depuis la parcelle jusqu'à à notre chocolaterie. Donc dedans, on va inclure les litres de gasoil, par exemple, utilisés par les voitures, les motos, des producteurs, des collecteurs ou de la coopérative, etc. Les émissions liées aussi des fois à des groupes électrogènes. Dans certains cas, certaines zones, il n'y a pas d'électricité courante. Donc là, on utilise nos partenaires utilisent des groupes électrogènes. Et évidemment, les émissions liées au fret maritime pour faire venir en bateau le cacao. Voilà. Donc tout ça en fait est mouliné dans un outil. Dans un outil, on va avoir à la fin, en fonction des volumes qu'on a achetés, un facteur d'émission. Donc, rapporté à la, au kilo de cacao qui arrive chez nous, on sait combien on a émis de kilos de CO2. Et voilà, on est en train de construire un plan de réduction de ces émissions. Parce qu'on doit s'aligner et on a comme objectif de s'aligner avec la trajectoire qu'on appelle SBTI, mais en tout cas la trajectoire délivrée par le ministère de la Transition écologique français et l'Union européenne. Et donc voilà, on se doit de répondre à ça.
Oui, donc en plus, du coup, c'est une brique supplémentaire par rapport à ce que tu regardes au départ, qui est le traitement des conditions humaines, là, toute la partie aussi déforestation, de genre comment ont été faites toutes ces plantations, etc. Et du coup, tu rajoutes en fait cette brique. Et du coup, sur l'autre partie des émissions, qu'est-ce qui rentre en compte et comment on peut le réduire.
Exactement, ouais, exactement. Et puis, c'est ce qui fait sens. Moi, c'est un projet sur lequel... J'ai pu un peu initier côté sourcing cacao à mon arrivée et qui me passionne parce que je trouve que c'est ça qui fait sens vraiment. Demain, il faut évidemment raisonner notre manière, enfin en tout cas revoir, raisonner notre manière de consommer du chocolat et en tout cas faire des efforts nécessaires pour que cette filière elle perdure, qu'elle puisse générer des revenus qui soient de plus en plus décents pour les producteurs. Et à la fois avoir un impact environnemental complètement minimalisé, quoi.
Combien de temps à peu près, plus pour revenir, on reprend de la hauteur, mais du coup, combien de temps tu passes à peu près dans les plantations chaque année? Sur une année, combien de temps tu vas passer à aller faire tout ça? Et du coup, donc il y a une partie où tu es en France et finalement, ça va être plutôt le tester ce qu'on t'a envoyé.
Ouais, alors ça varie, comme je le disais, ça varie un peu, mais voilà, on peut dire 2-3 mois.
Ok.
2-3 mois cumulés, ça fait peut-être 2-3 mois à la fin de l'année en pays producteur. Ouais. Et on va avoir, en fait, ça prend aussi du temps parce que selon les pays, on va avoir différents interlocuteurs. On peut avoir des ministères, on peut avoir évidemment des coopératives, nos partenaires, des entités, d'ailleurs publiques ou privées ou ONG qui vont venir en appui des coopératives ou qui vont être des organismes un peu structurants dans les filières. Donc, on a vraiment différents interlocuteurs. Et tout ça, voilà, on a aussi un aspect représentation du chocolatier pour lequel on travaille dans les pays producteurs. Donc, il y a aussi ce volet-là. Ce n'est pas uniquement des visites de parcelles.
Oui.
Effectivement, il y a tout ce volet-là aussi.
Et après, donc toi, t'es beaucoup, dans tous les cas, en amont, enfin en tout cas jusqu'avant que, comme tu le disais, vous signiez le, du coup, on s'engage à vous acheter du chocolat chaque année pendant X années. Mais du coup, une fois, est-ce que tu interviens après ce deal-là, chaque année, en disant, voilà, je vais continuer à voir si, je sais pas moi, tu vois, comment est-ce qu'il est continué d'être cultivé le chocolat, si c'est bien conforme à ce qu'on avait vu il y a 2 ans, enfin, est-ce qu'il y a un suivi aussi après derrière producteurs.
Ouais, tout ça est suivi. Tout ça est suivi. En fait, dans nos conventions, elles sont liées à des projets, à des conventions de projets aussi, qui là sont des contrats signés pour chaque projet réalisé avec nos partenaires. Donc dedans, il y a forcément un aspect suivi. Et l'idée, évidemment, c'est le leitmotiv un petit peu, c'est d'internaliser les compétences délivrées par le projet. C'est-à-dire que quand on travaille sur des modèles d'agroforesterie un peu idéal, en tout cas idéal pour la suite et le futur, l'idée c'est vraiment d'internaliser la compétence de plantation, d'association des bonnes cultures par les techniciens en tout cas chez les techniciens des coopératives. Pour que ce soit incarné aussi par la coopérative, faut qu'elle y croie, faut que ce soit logique, faut que ce soit cohérent, enfin voilà, rationnel pour les producteurs. Mais tout ça peut l'être que si la coopérative et les techniciens le maîtrisent et l'incarnent.
Et du coup, donc le... Alors, je veux bien du coup ton regard là-dessus, mais j'ai l'impression que du coup le métier de sourceur devient de plus en plus essentiel. Enfin, je sais pas en fait à quel point
c'était possible de s'en passer, mais avec toutes les lois qui sont en train d'arriver sur toute la partie traçabilité, etc., des cacaos, c'est essentiel d'avoir un. Enfin, tu peux plus t'en passer, mais déjà, en fait, je sais même pas si avant c'était possible de faire ça. Et qu'est-ce que ça change du coup tout ça?
Ben, en fait, donc nous on a initié la traçabilité au producteur il y a déjà plusieurs années, et en 2017 de mémoire, on était 100% traçable au producteur sur notre partie achat de fèves, et évidemment que tout le monde, enfin, en tout cas, il y a des consortiums, il y a des séminaires où les tendances des prochains sujets qui vont être un peu chauds sortent. Après, c'est à la discrétion de chacun, de chaque chocolatier, de l'évaluer et de se l'approprier, d'en faire un, en tout cas, d'en faire un combat, en tout cas, une activité un peu centrale. Donc oui, les lois, elles viennent, la loi sur la déforestation importée, elle vient mettre un coup d'accélérateur chez pas mal de chocolatiers qui vont devoir du coup se prémunir, en tout cas, la condition sine qua non pour être conforme à cette loi, ça va être une traçabilité au producteur. Ça va être une géolocalisation aussi des parcelles. Donc c'est vrai que si on n'a pas initié tout ce travail de traçabilité, on va devoir compresser toutes ces activités dès cette année assez vite, quoi. Donc oui, bien sûr, les lois, elles sont toujours là pour mettre un peu un coup d'accélérateur dans les filières. C'est ce qui se passe sur la loi de déforestation importée. C'est après à chaque chocolatier aussi de se prémunir un petit peu de tous ces enjeux, de se responsabiliser aussi. Je pense que effectivement ça aide d'avoir un département sourcing qui est un peu en alerte sur ces sujets-là, qui va pouvoir aussi faire avoir un peu ce rôle d'intermédiaire, d'expliquer en fait pourquoi une loi européenne sort auprès de nos partenaires, nos coopératives, des producteurs qui parfois ne comprennent pas quel est l'intérêt, comment on va faire pour être conforme, et aussi de relayer les efforts que eux vont devoir faire et qui demain seront intégrés forcément dans le coût de revient du cacao, qui doivent être intégrés. Donc voilà, un chocolatier, il doit s'adapter à ça. Il a pas le choix s'il veut du cacao de toute façon. Et voilà, ses coûts de revient doivent être ces coûts de revient supplémentaires, hein, pour respecter les lois de la part des coopératives, de la part aussi des chocolatiers. Tout ça va nécessiter une communication assez transparente tout au long de la filière. Et plus on a une filière courte, plus c'est facile.
Mais du coup, c'était possible. Enfin, tu vois, parce que moi, du coup, de tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, enfin, vous le faites depuis très longtemps, et donc tout ça, c'est intégré. Mais du coup, c'est possible. Enfin, tu vois, comment ça se passe en fait pour ceux où c'est pas le cas? C'est qu'il n'y a pas de sourceur, ou c'est que en fait, c'est des sourceurs qui sont pas spécialement fiables? Enfin, qu'est-ce que.
Non, 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 je pense qu'à partir du moment, en fait, bon, alors le mot sourceur, c'est vrai que c'est un grand mot pour finalement dire que c'est un acheteur qui va être très connecté,
Ouais.
enfin, connecté au maximum avec ses partenaires et ses coopératives, qui est souvent évidemment un agronome pour être, en tout cas, de comprendre toutes les dynamiques agricoles et l'influence des notions, données agronomiques, etc., dans la relation avec un partenaire qui est évidemment central. Mais oui, je pense que il y a plein de chocolatiers, ça marche un peu dans toutes les filières. Il y a toutes les filières à matières premières où on achète en plus dans des milieux tropicaux, enfin en tout cas dans des zones qui sont très éloignées de nos contextes. Ben, tant qu'il n'y a pas de loi, tant qu'il n'y a pas de cadre juridique, législatif, on n'est pas incité à forcément le faire. Et ça a un coût aussi, hein. C'est-à-dire que ça a un coût, il faut être. Voilà, il faut que en tout cas, les personnes qui pilotent la chocolaterie soient engagées là-dedans, soient convaincues pour y aller. Et effectivement, ça c'est des critères qui peuvent varier d'un chocolatier à l'autre. Ça peut varier aussi par rapport à son, comment dire, à son écosystème de clients. C'est-à-dire qu'un client, par exemple, qui se trouve dans des pays nordiques, je dis une bêtise, en Suède, à Stockholm, dans un quartier où il y a un pouvoir d'achat peut-être supplémentaire, une sensibilité forte à tous les enjeux RSE, ben, il sera beaucoup plus challengé que peut-être un boulanger qui utilise du chocolat pour ses pains au chocolat dans un département en province en France. Je dis une bêtise, hein, c'est assez stigmatisant, mais voilà, ça c'est vraiment des choses qui peuvent être déterminantes pour le chocolatier. Et donc en fonction de son écosystème de clients, ben, on sera plus ou moins incité à le faire plus ou moins rapidement aussi.
Ok. Et est-ce que toi, tu as vu, donc depuis le temps où que tu fais ce métier et que tu visites aussi des plantations, etc., est-ce que tu as vu certaines évolutions, notamment surtout de la partie qu'on peut avoir autour, tu vois, à la fois tu vois, réduction de l'impact écologique, environnemental, mais purement du coup déforestation, à la fois avoir des plantations plus éthiques en termes de droits humains, enfin qui respectent aussi plus le travail prix aussi, je sais pas, tu vois, plus juste rémunération du coup des producteurs. Est-ce que tu as vu une évolution sur tout ça depuis plusieurs années ou là, enfin, ou tu vois, est-ce que c'est très récent? Est-ce que ça traîne encore? Enfin.
Tu veux dire du côté de nos partenaires, ces engagements-là?
Ouais, enfin, oui, je sais pas comment dire, plutôt sur le secteur aussi en règle générale, dans le sens où. Est-ce que, tu vois, par exemple, j'en sais rien, mais quand tu as commencé, c'était plus compliqué, entre guillemets, de trouver des productions qui étaient, enfin, tu vois, qui étaient plus respectueuses et qu'on allait, du coup, mieux rémunérer. Est-ce que c'est venu avec le fait de, justement, mieux les rémunérer? Enfin, tu vois, je sais pas. Hein,
Oui, bah, je pense qu'il y a une évolution qui est quand même progressive. Il faut dire qu'elle est lente. Elle est
Ouais.
pas, voilà, on se donne pas les moyens, mais elle est à l'image aussi de. Elle est lente. Enfin, c'est quand même accéléré depuis 2 ans, hein, je dirais quand même. Il y a une
Ok.
accélération forte. Il y a certains consortiums d'ONG, notamment la Chocolate Scorecard, qui a permis de faire bouger les lignes, je pense, chez pas mal. Enfin, en tout cas. De booster un peu plus la filière. Mais globalement, évidemment, ça avance lentement. Ça avance lentement parce que ben, le marché du chocolat, il est quand même assez. Par exemple, en France, un chocolatier, sur une année comme 21-22, par exemple, il y a une inflation donc, liée ensuite à la sortie Covid sur l'énergie, sur plein de choses, la guerre en Ukraine, etc. Donc, il est un peu tiré, on va dire, il est un peu exposé à tout un tas de tensions, notamment sur ses coûts de revient, etc., qui font que ben, par moment, c'est très difficile d'accélérer plus vite. Certains peuvent le faire, d'autres non. Certains le font, d'autres non. Voilà. Après, oui, effectivement, ça avance lentement, je trouve, depuis ces dernières années, mais ça s'accélère quand même depuis 2 ans. Je dirais, depuis 2 ans sorti de Covid, il y a quand même sur la filière cacao. Et cette année, le prix du cacao, il est historique. Il n'y a jamais eu ces prix-là. Et donc voilà, ça vient rabattre quand même beaucoup de cartes sur la question de la juste rémunération des producteurs, sur la répartition de la valeur ajoutée. Voilà, toutes ces questions-là, elles vont être traitées différemment cette année parce que c'est comme si on travaillait sur une autre filière presque cette année.
Ok.
C'est absolument, absolument incroyable ce qui se passe. Et il y a des ajustements qui vont être faits. Ça va peut-être participer aussi à la. Bon, ça va rebattre quand même pas mal de cartes au sein de la filière, hein, de comment travailler demain en fait, parce que peut-être que ces prix, et c'est fort probable, ben, il y a une part de la hausse de ces prix qui est structurelle et qui n'est
Ouais.
pas conjoncturelle. Donc voilà, ça c'est vraiment des questions en tout cas des conclusions qu'il faudra tirer à la fin de l'année.
Actuellement, toi, du coup, c'est quoi les enjeux de ton métier? Est-ce que tu vois là sur les prochains mois, les prochaines années?
Ben, l'enjeu majeur, ça va être avec les prix pratiqués cette année, ça va vraiment être de maintenir un niveau d'exigence sur toutes les ambitions, et là je parle à l'échelle de la filière cacao, hein, toutes les ambitions RSE qui ont été fixées, aller plus loin et surtout respecter les engagements pris sur le climat. Pourquoi? parce que je pense que les pays producteurs et les coopératives avec lesquelles on travaille, elles sont les premières à exposer au changement climatique. Quand on subit une sécheresse avec un manque d'eau en Ardèche ou dans l'Aveyron ou dans le Vaucluse en France, on a, bien sûr, c'est extrêmement problématique. Hein, donc des citernes viennent livrer de l'eau, etc. L'hiver, on peut faire moins de ski. Mais structurellement, on peut s'adapter beaucoup plus facilement qu'en milieu tropical. En milieu tropical, cet emballement du changement climatique, il est exacerbé. Donc, concentration des pluies, ça veut dire 3 mètres d'eau d'un coup. Ça veut dire la chute des fleurs du cacaoyer de manière drastique. Donc, 3, 4 mois, 5 mois où ça produit rien, des revenus en moins et des longues périodes de sécheresse. Des longues périodes de sécheresse ou pareil, donc il va y avoir énormément de cabosses qui vont avorter. Donc voilà, je pense que tout ça, respecter des engagements climat, être ambitieux sur la réduction de nos émissions, en fait, ça va juste permettre aussi de maintenir un écosystème dans notre écosystème dans lequel on travaille, c'est-à-dire travailler du cacao avec des pays producteurs. Et il y a tout un travail qui est fait sur comment demain remplacer le cacao si on n'arrive plus à en produire. Moi, je pense qu'il y en aura toujours un peu. Il y en aura peut-être moins. Il y en aura toujours un peu. Il sera sûrement plus cher. Il y en aura toujours un peu. Il y aura toujours des producteurs qui en feront. Et voilà. Et on est obligé de maintenir cet écosystème et respecter ses engagements climat parce que sinon, on s'expose à des migrations majeures. Je parle de migrations au sein de pays tropicaux, ou des migrations vers des pays plus entre guillemets plus développés pour aller voilà. Et ça va être des enjeux sociaux qui vont être complètement perturbants.
Effectivement. Et du coup, aujourd'hui, on passe de l'autre côté, mais pour les consommateurs, à quoi il faut faire attention quand on sélectionne un chocolat, enfin quand on achète un chocolat, du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder et voilà, quel est un peu quel conseil tu donnerais?
Voilà, moi je dirais que aujourd'hui, ça prend encore plus de valeur de consommer un chocolat en ayant un œil sur le packaging, sur ce qui est fait derrière, sur qui le produit, comment être challengeant en fait. Être challengeant avec sa marque, avec sa marque un peu favorite, préférée, etc. De demander plus de transparence, c'est normal. Je pense qu'on va vers ces exigences-là. Donc nous chez Valrhona, on travaille là-dessus, hein, sur comment apporter encore plus de communication et de transparence sur toutes nos activités auprès de nos partenaires. Ça c'est vital. Mais voilà, moi j'inciterai le consommateur évidemment à se poser encore plus de questions, à se poser des questions vraiment sur le climat, sur l'impact. On entend beaucoup de groupes de consommateurs se dire peut-être qu'il faut devenir 100% végétarien tout le temps, il faut plus manger de chocolat, il faut plus importer de café. C'est des choix qui peuvent être valables. Ça veut pas dire qu'il faut pas non plus. Je pense qu'il faut être assez nuancé dans l'idée. On peut par moment se restreindre. On peut ne plus en manger par choix parce que on pense que c'est la solution la plus facile pour éviter tout ça. Il faut juste le faire en conscience de l'impact que ça peut avoir depuis le producteur jusqu'à toute la filière. C'est-à-dire que consommer plus de chocolat demain, ça veut dire plus de cacao ou moins de cacao, dans la mesure où on l'achète à des producteurs qui vivent dans des environnements où il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance retraite, enfin voilà, les cotisations de retraite sont minimales. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc je pense que le consommateur, globalement, il doit se poser ces questions-là avec un filtre climat fort et un filtre humain, conditions de vie des producteurs, qui le produit et comment, pareil, qu'il soit fort.
Ouais, c'est ça. Et ça, tu vois, c'est un sujet du coup que j'ai abordé avec quasiment toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter sur cette série-là. Mais effectivement, je trouve qu'il y a aussi un truc de... Tu vois, ça reste compliqué aujourd'hui en tant que consommateur de savoir vraiment... Enfin, en fait,
Enfin, tu vois, on peut le savoir si on fait des recherches, mais globalement, c'est un peu compliqué, tu vois, de savoir directement quelles sont les conditions de vie, finalement, aussi dans les plantations. Et de savoir, enfin, tu vois, entre deux tablettes, est-ce que je suis sûre que bah, celle-ci, elle a bien respecté et celle-ci, non, quoi.
Bien sûr. Bien sûr, après ça passe par des certifications, ça passe par plein de choses, mais les certifications ne suffisent pas elles-mêmes. Donc nous, on s'est engagé sur du commerce équitable. On a environ un tiers de notre sourcing là qui va être commerce équitable cette année, puis on va le déployer les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qui fait sens pour nous, mais qui peut pas se suffire à lui-même. Voilà, une certification, elle va certifier un modèle existant, mais il y a pas mal. Alors bien sûr, elle s'inscrit dans une dynamique, une amélioration continue dans la relation commerciale, etc. Il y a aussi tout un tas d'activités qui doivent être valorisées, qui ne sont pas forcément inclus dans la certification. Donc voilà, tout ça, ça doit émerger. On doit être assez ambitieux sur tous ces sujets-là.
Non, mais effectivement. Bah, merci beaucoup, c'était très très riche. Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais pas que tu aimerais dire, qu'on n'a pas, enfin un message que tu as envie de faire passer ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué?
Je pense pas, je pense qu'on a été assez complet. Je pense que le message, il est vraiment de se dire demain que la consommation, en tout cas du chocolat, elle doit beaucoup plus se conscientiser depuis le consommateur, depuis le client final. C'est aussi ça qui viendra dynamiser encore plus toute la chaîne. Il y a plein d'efforts qui sont faits, mais je pense qu'une conscientisation du consommateur est bien sûr qu'il doit elle peut pas être fait elle peut pas être faite uniquement par le consommateur, ça doit être appuyé par toute la filière. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé pour la suite.
Oui, c'est ça. Ça doit être fait par toute la filière, mais ça commence aussi avec le consommateur. Enfin, ça commence de tous les côtés, mais le consommateur a son rôle à jouer dans tout ça.
Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Bah, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier qui est assez, enfin, du coup, assez fou. Enfin, est-ce que tu sais depuis combien de temps est-ce que ce métier existe? Ça fait très longtemps ou est-ce que ça fait
Alors, c'est vraiment des fois mettre un grand, comme je te disais, mettre un grand nom sur
Oui.
quelque chose qui, voilà, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui se disent, bon, ben, je veux acheter un cacao un peu plus enfin, en tout cas, responsable,
Oui.
je veux savoir ce que j'achète, donc je vais voyager pour aller voir. C'est ça, hein, clairement.
Oui.
Aujourd'hui, on a mis un grand mot je saurais pas te dire, mais depuis qu'on fait du chocolat, il y a forcément des gens, en tout cas, qui sont allés fouiller un peu ce qu'ils achetaient.
Non mais trop chouette et merci beaucoup.
Merci, merci à toi.
Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!